On est de retour et l'histoire a fait couler beaucoup d'encre et elle va continuer d'en faire couler. Par contre, je dois dire, puis c'est quelque chose que je mentionne souvent, trop souvent on s'arrête aux gens qui sont négatifs, aux gens qui sont racistes, aux gens qui sont misogynes. Et on parle rarement des gens qui font les bonnes choses, qui ne sont pas misogynes, qui n'en sont pas racistes. Et dans le moment qu'on vit présentement, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, Simone Biles, pour que vous compreniez c'est qui Simone Biles, dire c'est la Usain Bolt des Jeux, c'est peu. Elle est considérée par plusieurs comme la plus grande gymnaste de l'histoire de l'Olympisme. Elle a remporté déjà multiples médailles aux Jeux olympiques et plusieurs sauts, plusieurs acrobaties portent son nom. Ce sont des Biles. Et ses adversaires, bien, refusent. Et j'obtiens ça, là, c'est les mots de M. Boisvert dans la presse ce matin. Ses adversaires refusent d'effectuer ces gestes parce que ce sont des Biles. Un peu comme, si vous voulez, Michael Kingsbury, qui était le seul à pouvoir faire certains sauts et que même son sport refusait qu'il fasse ses sauts. Il était à ce point avancé. Simone Biles, c'était ça. C'était l'athlète des athlètes. On va parler de ce... Puis là, je vous disais en début d'intervention, je disais, parlons de ceux qui disent les belles choses. Simone Biles avoue qu'elle a craqué et personne ne parle. V'là 2 ans, le monde aurait dit le mot « choqué ». V'là 2 ans, on aurait dit « elle est faible ». Tandis qu'aujourd'hui, on dit « bravo ». Elle se retire, c'est de la maladie mentale, il faut traiter ça, on n'est pas dans le jugement. On va parler de tout ça avec un préparateur mental. C'est lui, entre autres, qui s'occupe de Laurent Duvernay-Tardif et Michael Kingsbury, les conférenciers et auteurs de best-sellers olympiens au bureau. C'est M. Jean-François Ménard. M. Ménard, bonjour.
Salut, Martin.
Comment ça va?
Moi, ça va très bien. Je suis un peu fatigué, là, je vais l'avouer. Là, je vis sur l'horaire Tokyo.
Ah oui?
Donc, je dors pas beaucoup la nuit, puis je prends des longues siestes l'après-midi, mais écoute, ça va. Avec l'adrénaline des Jeux olympiques, là, on tient le cap, puis ça va quand même très bien.
Pourquoi vous suivez les Olympiques à distance avec eux en même temps?
Ben, c'est que je m'occupe, Martin, de 10 athlètes dans 7 différents sports pour ces Jeux-là. Puis étant donné la pandémie, étant donné les restrictions COVID, malheureusement, je pouvais pas être sur les lieux parce qu'ils ont limité les entraîneurs qui pouvaient être là avec les athlètes. Donc, je travaille à distance. Fait que c'est la réalité de travailler avec un décalage de 13 heures, c'est que tout est à l'envers. Donc, pendant la nuit, pour nous, c'est le jour là-bas, puis le contraire, c'est pendant le jour, c'est pour nous, c'est la nuit là-bas. Donc, mon horaire est vraiment atypique en ce moment, mais non, ça va quand même. Là.
Donc, eux, pour être à la fine pointe mentalement, ils vous consultent pendant les Olympiques.
Effectivement, on a fait beaucoup de travail de préparation pour les Jeux. Puis, tu sais, mon rôle, Martin, aux Jeux olympiques avec les athlètes, c'est pas tant des coachés, c'est plus de leur offrir des rappels, puis être là en renfort, être là, tu sais, à titre de soutien, si tu veux, là. Parce que le travail de préparation mentale est fait, là. Tu sais, arriver aux Jeux olympiques, selon moi, si t'es pas prêt mentalement, il est trop tard, là. Donc, ouais. Donc jusqu'à date, ça va bien.
Est-ce que je peux vous demander des noms qui travaillent avec vous?
Ben oui, pour ces jeux ici, je m'occupe de plusieurs judokas. Donc, Antoine Valois-Fortier, Catherine Beauchemin-Pinard et Jessica Kincaid. Donc, 2 médailles de bronze jusqu'à date pour la gang de judo.
Ouais.
Puis, plusieurs athlètes en athlétisme. Hugo Barrette en vélo de piste. Laurence Vincent-Lapointe en canot. Puis, beach volleyball aussi. Je m'occupe d'une fille en beach volleyball. Fait que...
Comment vous avez trouvé mon introduction sur Simone Biles? Est-ce que je vise dans le mille?
Ben, écoute, c'est sûr. C'est un phénomène, cette athlète-là. Je veux dire, si on porte attention à ce qu'elle a accompli dans sa carrière, c'est de loin la meilleure. C'est pas compliqué, là. C'est de loin la meilleure. Puis, moi, je trouve ça frustrant, Martin, lorsque les gens se prononcent en disant que, tu sais, elle est faible en ce moment, puis qu'elle n'est pas capable de gérer la pression, puis que. Moi, je vois ça complètement le contraire. Je veux dire, d'avoir le courage sur un plateau comme les Jeux olympiques, de partager ça, hey, ça prend de la force psychologique là, de pouvoir faire ça. Puis tant mieux, parce que si elle était vraiment en danger, puis elle était pas prête mentalement de faire ses manœuvres, t'expliquais tout à l'heure, que tu sais, c'est pas rien, là, c'est un sport extrême qu'elle fait. C'est rare qu'on parle de ça, mais la gymnastique, là, c'est un sport extrême. Je veux dire, si t'es perdu dans les airs puis que tu te sens pas à l'aise, tu peux vraiment te blesser sévèrement. Tu peux te casser le cou, là, carrément.
C'est ce que j'allais dire.
Ben oui, donc, tu sais, pour elle de prendre cette décision-là, moi, je vois ça comme, tu sais, ça me rend émotionnel d'en parler, je vois ça comme tellement de force, tu sais, psychologique de pouvoir se prononcer de la sorte, puis ça démontre le côté humain des athlètes. Tu sais, on les voit, ces athlètes-là, puis moi, je suis vraiment fortuné, tu sais, d'être avec des grands, tu les as mentionnés, là, tu sais, des Kingsbury, puis des Maxence Parot, puis Laurent Duvernay-Tardif, puis il y en a plusieurs autres. Puis, tu sais, à la base, oui, c'est des athlètes extraordinaires, mais c'est des humains. Puis, tu sais, ils ont des craintes, ils ont des inquiétudes, ils sont nerveux et nerveuses comme nous autres. Puis, tu sais, je trouve que ce que Simone a fait, c'est vraiment un message. Tu sais, déjà qu'il y avait beaucoup, tu sais, il y avait quand même beaucoup de, tu sais, on était de plus en plus conscients que, tu sais, la santé mentale, c'était important, puis il y a un momentum qui a été créé. Mais avec ce qu'elle a fait, tu sais, de se dire, on parle de la meilleure athlète au monde, de pouvoir parler de ça, puis de se retirer de son événement. Parce qu'on s'entend, là, les Jeux Olympiques, c'est une fois aux 4 ans, puis ces athlètes-là s'entraînent.
Pas juste de son événement, de ses Olympiques à elle. Elle n'est pas la poste... Lapsus. Poster girl des États-Unis. C'est la poster girl des Olympiques de Tokyo.
Tout court. C'est la princesse des Olympiques. C'est comme ça que je l'appelle. Puis effectivement, de le faire sur un plateau comme ça, mais j'espère que tout le monde qui nous écoute en ce moment, puis tout le monde qui sont conscients et conscientes de cette histoire-là, puisse se dire, hey, si elle est capable d'avouer ça, je pense que peu importe qui on est, on peut l'avouer aussi, puis d'aller chercher de l'aide. Puis tu sais, il faut changer aussi le stigma, tu sais, c'est une blessure. Moi, j'appelle ça une blessure, comme une blessure physique. On n'est pas gêné de dire qu'on a mal à un pied ou mal au dos. C'est une blessure, c'est de nature psychologique, mais ça demeure une blessure.
Tantôt, tu sais, on se tutoie, Jean-François?
Ben, c'est certain, Martin.
Tantôt, tu disais, on peut pas croire qu'il y a des gens qui vont critiquer sa décision. Et tandis que moi, dans mon préambule, j'ai décidé de parler, parce qu'à Tokyo, de ce qu'on lit, ça a été bien reçu, bien accueilli. Elle-même a écrit un tweet comme quoi qu'elle avait reçu énormément d'amour. Moi, je trouve qu'on est... Ça fait très 2021, les gens qui acceptent la maladie mentale, la dépression, les gens qui ne se sentent pas bien, au lieu d'être dans le jugement comme à l'époque, parce que si ça arrive mm-hmm. là, 2 ans, Jean-François, on dit mm-hmm. qu'elle a choqué.
Mm-hmm. Peux-tu t'imaginer, Martin, j'aimerais ça juste hypothétique, de façon hypothétique, là. Supposons là qu'elle avait fait ses événements au jeu, puis qu'elle s'avait blessée sévèrement. Disons là que, je sais pas moi, tu sais, on a parlé de casser le cou, là c'était peut-être un peu intense, mais disons qu'elle s'avait vraiment blessée sévèrement, là, puis qu'elle ne peut plus faire de gymnastique. Puis ensuite, elle avoue qu'elle n'était pas prête pour les jeux, puis que mentalement, elle avait des démons, puis selon moi, ça aurait été pire, parce que tu sais, elle serait enjôlée par, tu sais, les autres autour d'elle, puis tu sais, ses commanditaires, puis tout ça, puis de pouvoir, tu sais, prendre cette décision-là avant qu'il y ait des conséquences. Moi, je trouve ça remarquable. Vraiment, je trouve ça remarquable. Puis tant mieux si on en parle, puis tu sais, ça me fait plaisir d'en parler à la radio avec toi, parce qu'il faut normaliser ça. Oui, c'est vrai, tu as raison que 2 ans passés, on aurait dû choquer, puis c'est plus accepté maintenant, mais Martin, c'est pas assez accepté encore. Puis on a un bout de chemin à faire, puis je pense que ce qu'elle a fait, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un statement. Puis elle vient de normaliser que même une athlète qui est forte, puis tu sais, on la regarde, là, c'est Caroline, elle est musclée, tu sais, c'est toute une athlète.
Un train.
Puis même quelqu'un comme ça, de pouvoir parler de ça, je trouve ça formidable.
C'est l'autre affaire là-dedans. Le fait que ça soit elle, ça... En tout cas, moi, dans ma tête, j'ose espérer puis j'ose croire que ça montre aux gens que si moi, je peux mettre un genou à terre, tout le monde a le droit de mettre un genou à terre.
C'est clair.
Fait que, c'est comme ça que je le vois pour elle. Puis, regarde, je rêve tout le temps à ce que ça soit un monde meilleur, sans racisme, sans misogynie, sans... Puis qu'on accepte les gens qui... Puis personne n'est à l'abri, Jean-François. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Peux-tu... vas-y, complète. Après ça, j'ai une autre question pour toi.
Ben, en fait, j'aimerais ça prendre une minute, Martin, pour parler du concept de pression. Parce que, tu sais, on en parle souvent, on utilise le mot pression, puis, tu sais, je me rends compte que c'est pas tout le monde qui comprend ce que ça veut dire. Tu sais, la pression, c'est pas quelque chose, c'est pas un environnement, c'est pas une situation. La pression, c'est tout simplement une perception qu'on a d'une situation. c'est pas tout le monde qui vit de la pression pareil. Puis, tu sais, quand on décortique c'est quoi de la pression, il y en a de la bonne comme il y en a de la mauvaise. Il y a de la, pression positive comme il y en a de la pression négative. Moi, la pression négative, j'aime dire que c'est la pression qui vient d'en haut puis qu'on accumule sur nos épaules. Tu sais, ça, c'est tout ce que, tu sais, une perception, tu sais, un mindset associé à ce qui s'en vient, c'est menaçant. Tu sais, je peux pas faire d'erreur. Qu'est-ce que les autres vont penser si je choke? Puis ça, c'est très menaçant. Puis ça vient nous agacer, puis ça s'accumule. Puis à un moment donné, ça fait mal. Puis c'est une grosse distraction. Mais la pression, ça peut être aussi positif. Puis je m'explique, comme, tu sais, d'être excité à vouloir performer, à savoir à quel point qu'on peut être bon. Tu sais, moi, j'appelle ça, c'est comme la pression qui vient dans l'arrière, qui nous propulse vers l'avant. Parce que quand je regarde, tu sais, des grands athlètes que j'ai côtoyés, puis je pense à ce qu'ils ont vécu avant les Jeux Olympiques ou avant le Super Bowl ou les X Games, ils en ont vécu la pression, là. Mais on a travaillé tellement fort à convertir cette pression-là en étant un atout, un ami, quelque chose de positif, quelque chose qui va te propulser, puis de voir ça comme, tu sais, comme une opportunité et pas une menace. Fait que pour les gens qui nous écoutent, j'espère que ça peut inspirer les gens à comprendre que, tu sais, la façon qu'on décide de voir une situation va avoir un gros impact sur nos comportements. Puis faut pas l'oublier. Donc la pression, c'est pas une chose, c'est pas un environnement, ça dépend de la façon qu'on interprète la situation qui va déterminer si la pression qu'on va vivre va être négative ou positive.
Jean-François, c'est passionnant, puis sais-tu quoi? On va se reparler, c'est certain. Il y a tellement de choses à dire, de qui vient le plus la pression, comment gérer ça. Il y a tellement de choses à dire, mais espérons que ces Jeux-là seront peut-être les Jeux olympiques de Simone Biles, mais on se souviendra que c'est correct de dire « ça ne marche plus, mes affaires ».
Tout à fait.
Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, Martin. Bye bonne bye. Soirée.
Jean-François Ménard, préparateur mental, entre autres, une dizaine d'athlètes aux Olympiques présentement, Laurent Duvernay-Tardif et Michael Kingsbury. Quelqu'un qui fait souvent face à la pression et le fait face à différents niveaux, c'est Kim Clavel. Elle le fait à la boxe et elle le fait également quand elle est retournée sur le marché du travail comme infirmière pour nous aider pendant la pandémie. On lui parle dans quelques instants.